Les entretiens Hypnocafé.
Une session proposée par Charles Jousselin, médecin et philosophe.
Bonjour, Jen Turner. Merci de me recevoir dans ton bureau, donc rue des Patriarches, dans le 5e, donc dans le quartier latin. Pas quitté le quartier latin d'ailleurs. C'était là où tu avais monté le dojo, où tu as fait beaucoup d'enseignements. Juste un petit mot pour dire qu'on se connaît depuis très longtemps. Qu'on allait souvent le dîner, on allait dîner d'ailleurs chez Anne Blanchard Raymond, rue Scipion, on y rencontrait Jean-Michel Petaut, on y rencontrait Vaïk Godin, bien sûr, Hubert Dassigny, on y a même rencontré plusieurs fois Chertok.
Hein. Absolument,
voilà.
Madame Erickson, Betty Erickson, Betty Alice,
Voilà,
donc personnes passionnantes.
Exactement. Voilà, donc on se connaît depuis très longtemps. Et quand on me demande Jen Turner, la première chose à laquelle je pense, c'est pour le dire franchement, c'est justement ton accueil, ta douceur et surtout la ligne du temps.
Ah. Voilà,
tu parlais beaucoup de la ligne du temps. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ou deux?
Oui, absolument. C'est un modèle que j'apprécie énormément. Je dis des fois que je n'arrive pas encore à le faire le café correctement. C'est à peu près la seule chose que je n'arrive pas à faire avec. C'est vraiment très, très riche, très dense, très diversifié en termes d'application. La base de la ligne du temps, c'est le temps et l'espace créent une unité. En tant que psy, on sait que le temps et l'espace, ce sont les deux éléments qui fondent la psyché, qui permettent effectivement à l'être humain de se repérer, on va dire, dans ces deux entités fondatrices, en fait, de son être dans le monde. Et on sait également, en tant qu'hypnotiste, à partir du moment où l'un ou l'autre de ces deux paramètres sont suspendus, le sujet est naturellement susceptible ou va tout simplement entrer dans un état modifié de conscience. Parce qu'on va se servir en quelque sorte de ces deux entités pour se repérer dans le monde conscient, la conscience ordinaire, et non pas pour s'accrocher, mais tout simplement pour vivre sa vie. Et à partir du moment où il y a une distorsion temporelle, une distorsion spatiale, pour jargonner l'hypnose, hein, une suspension de ces paramètres, ben le sujet entre dans un état modifié de conscience. Et cet état, ces états, on va dire modifiés de conscience, offrent la possibilité de penser différent, agir différent, ressentir différent. Et se ressentir différent également, ça c'est tout à fait riche. Se penser différemment, être plus grammatical que Nike, et effectivement agir différemment. Alors, la ligne du temps, son définition, la définition, on va dire, non seulement usuelle, mais traditionnelle, c'est la représentation spatiale de notre temporalité. C'est effectivement notre temps à travers l'espace. Et du coup, on peut jouer avec ça en disant que c'est l'espace à travers le temps également. Donc, on va inviter tout simplement la personne à nous signaler, hein, plutôt que dire, parce que c'est vraiment... Le temps est dans le corps. Hein. Le temps s'inscrit dans le corps. C'est pour ça que je dis effectivement le temps et l'espace corporel, la temporalité intériorisée, on va dire. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment des éléments fondateurs. Et effectivement... Le corps, c'est la base de tout, c'est le point de départ. Donc, on va simplement demander à la personne, puisque c'est davantage connu le passé que l'avenir, même le présent, la ligne du temps, c'est la représentation spatiale de notre temporalité. Le passé, le présent, l'avenir, enfin le futur, comme vous voulez, se trouve représenté. Alors, si vous deviez maintenant tout simplement m'indiquer, me signaler, hein, la réponse qui vient. Où se trouve le passé? Et très souvent, il y a de grandes réponses, c'est le passé est derrière moi, ou bien le passé est à gauche, quelque part par là. Quoi. Très bien.
D'accord.
Bien sûr, nous sommes organisés latéralement, hein, nous sommes symétriques, et il est cohérent de demander à la personne, justement, dans cette démarche symétrique, et le futur et l'avenir, où se trouve le futur. Et typiquement, c'est ou à droite, une sorte de parallélisme, on va dire, ou bien devant.
D'accord.
Formidable. Alors, puisqu'on a ces deux points de repère-là, et on sait l'expérience que deux points de repère donnent l'ouverture du champ à tout ce qu'il y a entre ces deux points de repère. Ce qui veut dire qu'on a une sorte d'arc d'expérience possible, et ça donne une perspective. Donc, du coup, où se trouve le présent? Où se trouve le présent? Et donc, du coup, deux grandes possibilités, c'est dans mon corps, c'est devant moi, toi, devant moi, c'est effectivement à l'extérieur quelque part, mais c'est soit dans le corps ou bien à l'extérieur. C'est, ça existe que la personne nous dise c'est tout ça, c'est-à-dire que c'est tout le corps, mais plus souvent c'est là, sans indiquer exactement où, mais bon, en soi quelque part. Alors, donc du coup là, on dit, oh, c'est magnifique, merci. Et si vous deviez maintenant tracer simplement, indiquer au travers d'un geste, hein, comment ces trois espaces-temps se relient, hein, qu'est-ce que vous feriez? Oh, ben, ça donne ça. Hein, tracer devant, ultra classique, oh, ça commence là-bas, derrière, ça passe par le cœur, par exemple, et ça continue, ça se prolonge devant. Très bien. Ça, c'est votre ligne du temps.
D'accord.
Donc, je veux dire par là que c'est rien de compliqué. Hein. Très occasionnellement, très très occasionnellement, on va avoir des gens qui ont des lignes du temps assez surprenantes. Ça fait partie du charme de la chose, quoi. Je me souviens d'une jeune femme qui disait « Oh, ben le passé, c'est dans mon estomac. Très bien, l'avenir, c'est dans ma gorge. Et le présent, c'est dans mon cœur. » Ok, ça va être intéressant. Bon, alors pourquoi je dis ça va être intéressant? C'est parce qu'ensuite, on va inviter la personne justement à se détacher de cette représentation, à se détacher de façon à avoir du dégagement de la perspective, du recul et un état modifié de conscience, à cet espace du possible qui s'invite, on va dire, dans la mesure où on a suspendu les points de repère usuels.
D'accord.
Donc, du coup, qu'on a quelque chose un peu surprenant comme ça, je me suis dit, bon, ben, d'accord, je ne sais pas comment vous allez faire, ben voilà. Et là, très bien, on a dit, oh, pas de problème. Les gens me surprennent toujours, quoi. On les invite et ils trouvent le double moyen. Alors, donc, puisque... Qu'est-ce qu'on va travailler? J'allais dire, puisque les émotions se relient au temps, là c'est un peu trop rapide, dans la mesure où on va travailler justement les émotions, les décisions limitantes, les projections dans l'avenir, de manière à ce que le sujet se donne en fait, pas seulement se donne des projets, mais effectivement puisse envisager un avenir. Et ça peut prendre différentes formes quand je dis cela. Alors, on peut travailler avec les émotions, hein, pour justement alléger, voire, tant pis pour le mot, corriger. Quand je dis corriger, c'est toutes les émotions sont valables et dignes de droit de cité, quoi. Et quand je dis corriger, je vais dire alléger effectivement l'impact de l'émotion sur la personne. Parce que le gros souci avec les émotions, les émotions sont reliées au temps. Quoi. Il y a des émotions qui sont reliées au passé, comme la culpabilité, le regret, c'est classique, on va dire. Et il y a d'autres émotions qui sont reliées à l'avenir, l'anxiété, ça voilà. N'a pas encore eu lieu.
Oui.
Bon, très bien. Mais également, des choses comme, je sais pas, anticiper avec plaisir, quoi, en fait. On a le droit aussi à ça, quoi. On se dit que, quoi qu'il en soit, toutes les émotions se vivent à l'instant présent. Moi, je veux bien. Seulement que lorsqu'on flotte au-dessus de la ligne du temps, ben, les émotions, le ressenti des émotions est suspendu. C'est ça qui est intéressant. Alors, la difficulté, c'est justement, je vis mes émotions à l'instant présent, les événements, imaginons les événements du passé. Les événements qui ont engendré ces émotions sont révolus. Ces événements sont au passé simple, mais moi je fais comme si c'était toujours le passé composé, c'est-à-dire susceptible de se reproduire. Donc du coup, comment aider la personne à effectivement considérer que ça c'est fini, c'est vraiment du passé historique, ça fait partie de mon histoire, n'empêche, ça ne m'affecte plus. C'est ça le gros souci en fait, hein. Il s'est passé quelque chose et je continue à m'en affecter comme si c'était soit toujours présent, le traumatisme qui nous tourne en fait, ou bien comme si ça pouvait se reproduire et que cette épée de Damoclès au-dessus de la tête fait que je ne peux jamais m'en défaire, car comment je saurais, comment réagir si j'oublie ce ressenti-là? C'est archi faux, c'est comme ça que beaucoup de personnes le disent de toute façon. Quoi. Vous n'allez pas oublier ce ressenti, vous allez le mettre à sa place. Vous n'avez pas besoin de continuer à ressasser en fait ce sentiment. Ce n'est pas une émotion, hein, très cher monsieur, madame, c'est un sentiment. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler à son esprit en permanence au cas où. Et ça prend énormément d'énergie. Donc, du coup, on peut travailler les émotions qui sont... des événements qui profiteraient d'être désaffectés. Oui. Et le point de départ sera une émotion problématique, on va dire. Alors, on peut travailler également ce qu'on nomme des décisions de vie. En somme, une décision, ça donne, puisque c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un événement qui est chargé émotionnellement, le sujet naturellement à ces moments-là ne pense pas clair, hein, n'est pas en mesure de mesurer le pour et le contre, de réfléchir sur quelle conduite tenir, normal, hein, de toute façon c'est submergent. Et donc du coup reste avec une sorte de suspension, d'arrêt sur image, de je ne sais pas quoi faire. Et on sait en hypnose, justement, que c'est le propre de l'utilisation de la confusion. Ouvrir une brèche, on va dire, dans le modèle du monde du sujet si bien organisé, pour offrir n'importe quoi sauf ce que vous faites d'habitude. Seulement, dans le cadre de l'hypnose, nous sommes dans un cadre protecteur de la thérapie, de l'accompagnement, et ce cadre protecteur, je peux dire, effectivement, on ne va pas laisser la personne mettre n'importe quoi à la place. Voilà. Alors que là, le sujet est laissé pour compte avec les moyens de bord, une situation émotionnellement engageante, problématique, une pensée pas claire, aucune réflexion par rapport aux conséquences possibles de la décision que je suis en train de prendre et des comportements que je vais naturellement engager, bah, tout est fait pour que ça foire. Hein. Donc du coup, puisque c'est comme ça, c'est je constate, avec un faisceau de réflexion extrêmement restreint, que le monde est ainsi organisé, et puisque le monde est ainsi organisé, je décide d'agir de manière à survivre. C'est vraiment c'est ça quoi. Donc du coup, mais ce que je décide de faire est un faisceau vraiment d'attention très restreint. Et la difficulté, c'est à ce moment-là, j'ai fait ce que j'ai pu. Ben, depuis, j'ai grandi, j'ai d'autres options, j'ai d'autres opportunités, j'ai d'autres sollicitations. Et ces sollicitations butent contre les restrictions que je me suis somme toute imposé, hein, et je me trouve en train de me dire, est-ce vraiment vrai? Est-ce vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui se passe? Belle crise, voilà, du sujet. Et elle arrive en disant, je ne comprends rien chaque fois que, par exemple, je me trouve dans tel type de situation, je réagis comme si, magnifique, hein, tout se passe comme si vous auriez pris une décision. À un moment donné, bien sûr que ce n'est pas conscient, ce n'est pas réfléchi, oui. Sinon vous ne seriez pas ici. Et nous allons, en quelque sorte, nettoyer ça. Et on nettoie effectivement en suspendant le temps, en invitant le sujet à entrer dans cet espace de, où tout est possible. Parce que rien n'est encore décidé, donc elle est avant que l'événement qui avait été à la source de la décision n'ait eu lieu. Et de là, ben, il n'y a rien qui m'influence de décider X, Y, Z, quoi. Donc du coup, qu'est-ce qui est naturellement invité comme décision, compte tenu de, donc c'est dans cet avenir, la personne que je suis, en fait, que je me reconnais être, voire la personne que je souhaite démontrer être. Parce que c'est, il y a beaucoup d'intérêt à porter notre intérêt sur un avenir au-delà d'aujourd'hui, de nouveau, pour que le sujet ait justement ce dégagement-là, quoi. Ce « oui, c'est possible ». Que c'est ça le diagnostic d'Erikson, en fait. Hein.
Mais c'est
de
très Eriksonien ce que tu nous racontes
capable.
Là. Très Eriksonien.
Ouais, très Eriksonien. Erikson, le diagnostic, c'est de quoi le sujet est-il capable.
Ouais. Hein.
Et effectivement, Erikson, son optique, c'était comme moi, quoi. Oui, c'est possible. C'est vraiment ça l'essentiel. Et donc, du coup, inviter cette connexion, décider ce qui reflète, en fait, ce qui nourrit, ce qui sous-tend, hein, ce qui illustre la personne que je suis véritablement. Et ça, donc on va nettoyer, on va dire ça comme ça, donc, différents événements, de façon à ce que le sujet puisse rayonner. Hein. Donc, moi, je trouve ça tout à fait sympathique de travailler de cette façon-là, puisque ce n'est pas nécessaire, là, c'est terriblement exclusif. Pas besoin de savoir. Pas besoin de savoir pour changer. Et la personne nous dit, ah, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que là, c'est l'événement, je ne sais pas trop, je sais que j'ai ressenti ça, vraiment, je sens que j'ai décidé ça, formidable, mais vous n'avez pas besoin, une trace mnésique suffit. Vous n'avez pas besoin d'avoir un souvenir, bon et du fond, on va dire. Hein. Parce qu'une petite façon, on sait, grâce aux neurosciences, entre autres déjà, Freud disait que les souvenirs de la petite enfance sont constitués à l'adolescence. Donc on est constamment en train de réécrire notre... comme une sorte de scrapbook, en fait. On est toujours en train de réécrire la narration, le film de notre vie. Hein.
Et donc, il y a tout un travail personnel qui est fait dans cette rencontre, au cours de laquelle tu leur proposes de suspendre quelque chose,
c'est
de
ça,
se mettre de côté. Moi, je fais parfois des conférences sur l'éloge de la retenue. Se retenir, se mettre un peu en retrait, en suspens. Tu l'as très bien dit, en suspension. Avec cette idée très ericksonienne que finalement, s'il y a une solution... Il y en a probablement une, et elle est chez vous, et voilà, vous allez la trouver. Mais encore faut-il se mettre en position de pouvoir la trouver.
C'est ça, voilà, exactement. Position, condition, voilà. Aider la personne à se mettre en condition, justement, d'être un bon allié d'elle-même, quoi.
Alors, est-ce que par exemple, tu utilises... est-ce que tu leur proposes des métaphores ou des choses comme ça? Ou pas du tout. Moi, je suis toujours un peu étonné de voir les thérapeutes qui proposent une métaphore. D'ailleurs, c'est toi, tiens, je pense à ça, c'est toi qui avais dit une chose que je répète tout le temps, ça me permet de me dédouaner, de te le dire. En fait, j'explique, et depuis des années, tu avais dit un jour quelque chose de formidable. Tu avais dit que la meilleure métaphore, c'est celle que nous souffle le patient. Voilà. C'est-à-dire que je te dis ça parce que je suis un petit peu étonné de voir des thérapeutes qui proposent des métaphores en fonction de la pathologie, la personnalité, etc. Alors qu'en fait, là, c'est ce qu'appelle Ricoeur. Ricoeur appelle ça la métaphore vive, la métaphore vivante. C'est celle qui est originale et qui vient du patient. Donc c'est ta métaphore qui est soufflée. Là, on est vraiment là-dedans.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois, franchement, j'aime bien le mot souffler parce que ça me renvoie, c'est le mot inspiration. Parce que c'est vraiment,
C'est vrai.
on est là-dedans. Ça nous inspire le sujet, hein, effectivement. Et on est dans cette respiration mutuelle, en fait, hein, où on est en train de s'inspirer du même air, quoi. Cette notion de partage, de co-création, et absolument co-construction. Moi, je reste convaincue, hein, et effectivement, en se laissant soi-même justement suspendre le jugement, hein, simplement être là avec ce qui est en train de se proposer, c'est assez surprenant que tout d'un coup on se dit, mais pourquoi je suis en train de penser à tel truc?
Voilà.
Voilà ce qui me passait par l'esprit. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est curieux que vous me disiez. C'est justement, la personne nous offre ça, ce
Oui,
qui fait
oui.
sens pour elle, quoi. Non, c'est délicieux.
Ah ouais.
Oui,
Ça, ta démarche est
délicieux.
très, très. Alors, toi, tu es psychologue clinicienne, bon, tu es
C'est
psychologue,
ça.
d'origine américaine, c'est ça?
Et j'ai fait mes études ici,
En France,
à deux
d'accord.
pas. J'ai fait mes études à Sancier,
C'est
juste
d'accord.
quelques rues plus loin là-bas.
D'accord. Donc, d'accord. Voilà. Comment tu as rencontré l'hypnose et Jean Godin? Enfin, en tout cas,
Oui,
oui,
voilà.
voilà.
Oui,
Parce
oui,
que
oui.
on t'a
Oui,
sûrement
oui.
pas appris ça à la fac.
Non, non, non. Non, non, d'ailleurs, quand j'étais à la fac, en cinquième année, donc, j'avais déjà rencontré Jean Godin et j'avais
D'accord.
rencontré Jacques-Antoine Malarévitch. Et donc, du coup, je m'étais dit, bon, c'est ma dernière année de fac. Si on veut bien que je fasse mon DRSS, maintenant, ça me. Master 2, je crois, si on veut bien, je ferai très volontiers sur ce que je fais en fait en tant que thérapeute, quoi. Donc j'avais demandé à Max Pagès, un être formidable, s'il accepterait, j'affilie un groupe, s'il accepterait que je fasse un stage en thérapie familiale, donc avec Jacques-Antoine Malevitch, et que j'écrive sur la PNL.
D'accord.
Et je me suis dit, ben, s'il me dit non, ben, non, m'organiserai différemment, quoi. Mais elle me dit, ah oui, mais ça m'intéresse. Et donc, du coup,
D'accord, très bien.
j'ai dit ça parce que justement, après, on va remonter le temps. J'avais écrit sur une technique particulière qui s'appelle la double dissociation, qui est absolument identique. Pagès a trouvé ça intéressant. Comment on va dire ça? La personne qui s'occupait de notre petit groupe a trouvé que ça sentait le soufre parce que bon. Et les gens dans mon petit sous-groupe me disaient, mais c'est l'hypnose. Elle dit, si vous voulez. Donc c'est de la manipulation.
Voilà.
Elle dit, no. Mais bon. Mais non, non. Donc tout ça pour dire, non, l'hypnose n'était pas à la fac. Voilà,
C'est
c'est vraiment
sûr,
pas du tout.
c'est
Non,
sûr.
en fait, mais c'est ça le paradoxe et l'ironie du sort. J'avais discuté avec une camarade, je partais aux États-Unis en première année, donc, et elle m'a dit, ah, mais si tu veux bien me ramener un livre qui s'appelle Frogs and the Princess, c'est un nouveau bouquin, une nouvelle démarche, ça s'appelle, je ne sais plus trop quoi, ok, très bien, voilà le nom des auteurs. Donc je note soigneusement, j'entre dans un cours, et là c'était Anne Ancelin, Schützenberger. Qui était là pour.
Ah, un
Magnifique,
Ah.
voilà. Il était là juste pour une conférence pour nous parler des thérapies made in USA. Donc, elle nous parlait de psychodrame, moyen, de. Elle n'avait pas parlé de Gestalt, et puis, mais enfin, bref. Mais elle avait parlé beaucoup de Rogers, et puis, elle dit, en terminant, oh, bon, maintenant, il y a. Elle n'a pas dit un de ces nouveaux trucs, quoi, californien, mais ça aurait pu être ça. D'ailleurs, il y a deux petites jeunes. Grindler, Bonder, quelque chose comme ça, je dis. Alors, sans, parce que je viens d'entendre, hein, qui travaille sur l'intérêt du langage et comment c'est important de parler la même langue, voire le même langage que le patient, sinon on risque de provoquer de la résistance. Alors je dis, ah, il y a comme un écho, quoi. Il y a quelque chose là, c'est curieux. Donc, du coup, j'ai pu acheter le bouquin, etc. Je l'ai lu, je l'ai trouvé formidablement intéressant. Et naturellement, là-dedans, ils disent Milton Erickson, quoi. Elle dit, ah, très intéressant. Qu'est-ce donc? Et j'ai pu trouver justement un thérapeute hors du commun de Jay Haley. Et je l'ai dévoré. Vraiment, je l'ai lu comme voilà, je ne sais pas moi. Moi, je ne lis pas de romans policiers, moi, je vois des autres autour de moi qui le font, effectivement, on met le doigt là-dedans. Je l'ai lu comme Harry Potter, voilà, on va dire ça.
D'accord.
C'était vraiment ça, quoi. J'étais subjuguée par le sorcier du désert. Absolument merveilleux. Ah, j'aimais ça, il me le faut. C'est net, ça, c'est clair, il me le faut. Et j'avais rencontré déjà Alain Carroll. Au travers de l'analyse transactionnelle, parce que j'ai étudié, on va dire, au sein d'une association, et Alain donc, avait proposé déjà de la PNL et un cours de l'hypnose ericksonienne. Donc je suis allée pour voir, quoi. J'ai trouvé ça vraiment tout à fait intéressant. Et Alain dit, ah, il y a Jeff Bezos qui va venir.
D'accord.
Donc c'est comme ça que j'avais rencontré Jean Gaudin. Ouais.
D'accord,
Ouais.
d'accord, d'accord.
Donc,
Donc,
c'est une série
voilà,
de
tu t'es rapproché, voilà.
coïncidences, voilà, c'est ça, des coïncidences
Oui,
heureuses. Voilà,
tout à fait, tout à fait. Ah, magnifique, magnifique, ouais, très bien,
Ah,
très bien.
c'est tout à fait charmant, du
Voilà.
reste, tout à
Et
fait
tout, et
charmant.
voilà. Et tu n'as pas, et aujourd'hui, quelques années après, avec tant d'années d'expérience, est-ce qu'il y aurait une remarque à faire ou quelque chose par rapport à toi, comment tu t'es senti en étant en faisant cette pratique ou je ne sais pas. Voilà, je sais pas.
Ah, c'est complexe. En fait, ce qui m'avait attiré, déjà, j'avais adoré la lecture. J'avais trouvé que c'était tout à fait une expérience, hein, ne
Oui,
serait-ce que de
bien
lire
sûr.
Hayley, de lire Sidney Rosen. Enfin, c'était vraiment une expérience. C'était tout
D'accord.
à fait expérientiel, tout à fait corporel. Et j'avais quand même gardé en tête que ben, est-ce que l'hypnose, est-ce qu'on peut vraiment faire n'importe quoi à n'importe qui, hein? Car ce qui m'avait attiré vers l'hypnose, c'était la peur. Est-ce vraiment possible? Et là, c'était, on va dire, une chance, en fait, encore une de ces coïncidences heureuses. Aux États-Unis, quand j'étais gamine, il y avait donc des comic books, hein, des bandes dessinées, et il y avait toujours une publicité au dos, hein? Il y avait deux grandes publicités. C'était ou bien devenez maître du monde, genre Arnold Schwarzenegger, grâce au fait que vous êtes bodybuildé, ou bien devenez maître du monde parce que vous êtes hypnotiste.
Donc, tu as choisi cette
Voilà,
solution.
à choisir, voilà, je dis bon, Arnold Schwarzenegger, moi, il n'y a pas beaucoup de similitudes là. Mais j'ai trouvé vraiment ça déjà intriguant.
Oui, tout
Et
à
dans
fait.
un de ces comic books, dans une de ces bandes dessinées, c'était justement une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Hein, donc,
Ah, ouais.
c'est ultra scotchant. C'était l'histoire d'un monsieur qui ne voulait pas mourir. Donc, du coup, il avait demandé à un mesmériste
Oui.
de le mesmériser
D'accord.
pour que, quand la mort viendrait, il ne serait pas là. Alors, bon, moi, j'ai quoi, peut-être 8, 9, 10 ans, quoi. Je n'avais pas une idée du tout de ce que pouvait être la mort, mais je comprenais que ça voulait dire ne pas être là, quoi. Enfin, bref. Et donc, du coup, je dis, bah, c'est intriguant, ce truc. Et donc, le monsieur avait bénéficié d'une expérience mesmérique, on va dire. Et quand il se sentit venir la mort, il avait appelé le mesmériste et qui avait fait son travail. Et le problème, c'est qu'il n'était pas là, mais il était nulle part. Je ne savais pas le mot à l'époque, mais c'était absolument splendide, systémiquement parlant. On était dans une double contrainte parfaite. Si je vis, je meurs. Si je meurs, je vis. Ben, OK. C'est compliqué, cette histoire. Donc, du coup, tant qu'il était dans cet état de suspension, il n'était pas vivant, mais il n'était pas mort non plus. Et donc, du coup, il ne pouvait ni vivre, ni véritablement, pouvait être en paix nulle part. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, oh, je dis, wow! Oh, est-ce que l'hypnose est vraiment aussi puissante que ça? Voilà, ça m'a vraiment saisi l'imaginaire. Et donc, en grandissant, je me suis dit, mais si l'hypnose est aussi puissante que ça, je ne suis pas sûre que c'est quelque chose que je veux
Oui, ça peut être
travailler.
très
Parce que
dangereux, très
déjà, moi,
dangereux.
j'ai du mal le matin, des fois, à me dire, oh, qu'est-ce que je mets ce matin? Voilà. C'est aussi bête que ça, quoi. Est-ce que je mets un pullover rouge ou est-ce que je mets une veste blanche, quoi? Et je me dis, mais j'ai absolument aucune envie de me retrouver avec un outil aussi dense, puissant, voire contraignant. Oh, parce qu'à ce moment-là, moi, je suis devenue responsable de la personne en face. Ce n'est pas du tout ça. Comme ça que j'imagine, effectivement, l'image thérapeutique. Donc, du coup, je suis allée avec une première interrogation, on va mettre en puissant dire. Et donc, dans le premier stage avec Alain, j'ai fait une expérience qui était formidable. On nous a invités à travailler avec le signaling. C'était vraiment des expériences assez amusantes. Et on devait demander à la personne si c'était OK pour elle d'approfondir la transe. Simple, la réponse est oui, très bien, la réponse est non. Ben justement, la réponse était non, on ne savait pas quoi faire. Bon. Donc, du coup, depuis quand j'ai enseigné, j'ai donné des pistes par rapport à quoi faire. Quoi qu'il en soit, mon sujet a signalé non. Ne sachant pas quoi faire, je propose tout simplement d'expérimenter encore quelques instants et puis de revenir. Quoi.
Ouais.
Elle me dit, oh, mais je regrette, tu m'as fait revenir quand même, je n'avais plus. Elle me dit, ah bon, ben, je suis OK, on comprend. Mais néanmoins, tu m'as signalé non. Et là, c'était super. Elle me dit, oui, c'est vrai, j'étais très ambivalente. Ah, je dis, j'ai suivi les instructions. Tu m'as signalé non, je t'ai fait venir. Elle dit, voilà, j'étais très ambivalente. Elle dit, génial. Elle dit, ça, c'est OK pour moi, ça, je saurais pratiquer.
Très bien, non, très bien. Ouais, magnifique, magnifique. Bizarre, c'est très, très bien ce que tu nous racontes. Bah, très bien, très bien. Écoute, en tout cas, quand je t'écoute, j'ai envie de revenir. Mais j'en reviendrai.
Avec hein,
parce
plaisir.
Que avec tu nous plaisir. As raconté des choses absolument magnifiques, là, Jen. Merci beaucoup. Est-ce que... Voilà, il y a tellement de choses que tu nous as dit, là, il faut que... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que... Moi, je propose de clore l'entretien, mais est-ce que tu voudrais dire quelque chose de supplémentaire? Mais je pense que l'année prochaine... Comment dirais-je ? J'ai envie de te dire que on va essayer de refaire un entretien l'année prochaine. Et justement, sur ce que tu racontes, c'est toutes ces personnages, pas ces personnages, toutes ces personnes très connues, et tu es dans cette mouvance comme ça, et tu as sûrement des histoires à nous raconter, et notamment cette première. Expérience d'hypnose, quoi. Voilà, où le patient te dit non, et là, bah, tu respectes le non, voilà. Et donc, c'est ça qui t'a fait... Oui. En tout cas, bravo, merci beaucoup.
Merci à toi, Charles. Non, la seule chose que je souhaite dire, c'est merci. Voilà, c'est toujours une bonne opportunité de partager avec ce qu'on aime, ce qu'on aime.
merci beaucoup. Merci beaucoup, Jen. Et puis...